Chers frères et sœurs, et vous, chers amis qui nous rejoignez par les ondes de Radio Lapourdie, au début encore de la Semaine Sainte, avant d'entrer dans le Triduum Pascal, nous voici rassemblés dans cette cathédrale Sainte-Marie de Bayonne pour la messe chrismale. Et je remercie particulièrement les prêtres venus nombreux pour renouveler les promesses de leur ordination sacerdotale et manifester ainsi leur communion avec leur évêque et avec tous les prêtres de notre presbytérium. Je sais combien vous appréciez, chers frères et sœurs, l'expression liturgique de cette communion, signe de crédibilité et source de fécondité de notre ministère au service du peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu particulièrement pour la fraternité qui grandit au sein de notre presbytérium, dont la diversité des générations et des provenances culturelles, spirituelles ou pastorales qui le caractérise désormais. Et nous avons eu cet après-midi quatre beaux témoignages de prêtres de générations différentes, 42 46 ans de sacerdoce, 25 ans, 7 ans, à peine un an. Jésus n'a-t-il pas dit à ses apôtres, précisément, au soir de la dernière scène, alors qu'il venait d'instituer l'Eucharistie et de les ordonner prêtres de la nouvelle alliance, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour » les uns pour les autres. Parce que nous ne sommes pas prêtres pour nous-mêmes, mais pour vous, chers frères et sœurs, je vous remercie aussi de votre présence toujours nombreuse, dans la diversité de vos charismes et de vos états de vie, de consacrés, de fidèles du Christ laïc, malades ou bien portants, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, sans oublier nos catéchumènes, ceux qui recevront les trois sacrements de l'initiation chrétienne dans la prochaine vigile pascale. Vous êtes le peuple confié à notre enseignement que nous sommes appelés à donner avec l'autorité même du Christ, à notre charge de sanctification que nous accomplissons in persona Christi, comme dit la tradition, c'est-à-dire dans la personne même du Christ, tête de l'Église, à notre charité pastorale, destinée à rendre présent au milieu de vous le Christ, seul vrai et bon pasteur de son troupeau. Ensemble, nous constituons l'Église du Seigneur, un peuple de prophètes, de prêtres et de rois qui pouvons redire par le Christ, avec lui et en lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. L'huile des malades et l'huile des catéchumènes que je bénirai dans quelques instants, le Saint-Crème que je consacrerai, attestent de cette richesse multiforme de l'Église. Et nous voulons en rendre grâce à Dieu. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à prendre conscience toujours davantage que la foi chrétienne est la religion du corps, le corps physique du Christ, continué dans toute l'économie sacramentelle et en particulier dans le corps eucharistique de nos messes et de nos adorations, et le corps mystique du Christ qu'est l'Église. Pour nous rejoindre et s'adapter à la nature dont il nous a dotés, nous qui sommes un de corps et d'âme, le Fils de Dieu s'est fait homme, le Verbe s'est fait chair. Pour nous réconcilier avec Dieu et entre nous, qui sommes blessés et divisés par le péché, il a offert son corps en sacrifice sanglant sur la croix. L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait même dire au Christ, entrant dans le monde, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » La vie chrétienne ne peut pas se déployer en dehors du corps, dont la raison et la foi nous apprennent à déchiffrer le langage spirituel, à savoir l'aptitude fondamentale de la personne à exister pour les autres, ni en dehors de notre corps physique, qui est l'instrument de notre âme, ni en dehors du corps eucharistique, qui est le sommet et la source de notre vie et de notre mission, appelés à se déployer dans la logique du don de soi, ni non plus en dehors du corps de l'Église, qui ne saurait se réduire au seul lien moral ou spirituel entre nous, au risque de n'être plus qu'un fantasme. C'est le grand réalisme de l'incarnation. Jésus qui a fait passer sa grâce de guérison et de pardon, le plus souvent à travers le contact physique avec son humanité sainte, a voulu lier notre salut jusqu'à la fin du monde au sacrement, c'est-à-dire au signe sensible qu'il a lui-même institué et qu'il a confié à son Église, qui est précisément son corps. Pour nous prêtres, c'est d'autant plus significatif que notre corps, partie intégrante de notre personne, est devenu, par la grâce de l'ordination, l'instrument privilégié de notre ministère sacramentel et de notre service pastoral. Par l'imposition des mains de l'évêque, par l'onction de nos mains avec le Saint-Crème, nous avons reçu un pouvoir réel sur le corps du Christ. Nous avons été ordonnés au corps eucharistique et au corps mystique du Christ. Nos mains ont reçu le pouvoir de bénir, de baptiser, de pardonner les péchés, de oindre les malades. Plus encore, nous prêtons notre corps, nos mains, nos lèvres au Christ Jésus, pour célébrer l'Eucharistie en sa personne et offrir le sacrifice de son corps et de son sang, présence réelle de son corps glorieux par mode de substance, présence réelle de sa croix par mode d'efficience. Parce que nous touchons le corps eucharistique du Christ, que nous offrons par nos mains, et que tout prenons sur l'autel pour le distribuer aux fidèles, nous avons un pouvoir redoutable sur son corps mystique qui est l'Église. Selon la belle expression du pape François, nous touchons la chair du Christ dans les enfants que nous faisons renaître par le baptême, dans les pauvres que nous secourons, dans les malades que nous consolons, dans les vieillards que nous accompagnons, dans les défunts que nous ensevelissons. Ce contact physique, si nécessaire au salut des âmes, devrait nous remplir d'une grande crainte, comme Moïse devant le puissant ardent. Un respect sacré devrait s'emparer de nous chaque fois que nous nous approchons de la terre sainte de nos frères, à commencer par les plus petits et les plus vulnérables, ceux que nous sommes appelés à protéger et à défendre de tous ceux qui tentent de les soumettre à leur manipulation, leur perversion, voire leur compassion fallacieuse, et qui les plonge si souvent dans la mort physique, morale ou spirituelle. Les enfants à naître, en particulier ceux dont un handicap a été diagnostiqué, les enfants dans leur innocence, les personnes handicapées, les hommes et les femmes qui s'enfoncent dans des situations de précarité ou qui demandent juste réparation pour de graves injustices, les déplacés qui fuient la guerre, la persécution ou la famine, les personnes en fin de vie exposées à la culture du déchet, sont l'objet constant de notre sollicitude pastorale, sans abuser jamais de notre autorité, dans le respect absolu de leur dignité d'hommes et de femmes, créés à l'image de Dieu et rachetés par un amour infini de prédilection. Nous comprenons aussi pourquoi l'Église latine tient tant au célibat des prêtres. C'est dans l'Eucharistie, peut-être, que nous en saisissons le mieux toute la pertinence et la profondeur. En prononçant les paroles sublimes de la consécration de la messe, « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est le calice de mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Nous rejoignons mystérieusement, par notre chasteté consacrée, la chasteté parfaite du Christ qui s'est réservé tout entier pour cette unique oblation de son corps sur la croix. Comment serions-nous indemnes d'une telle intimité avec son corps eucharistique, offert en sacrifice par nos mains, qui nous appelle à devenir plus que tout autre une seule victime d'amour avec lui, en expiation pour les péchés du monde entier. Sans doute, les prêtres, a fortiori les futurs prêtres, doivent-ils acquérir une vraie maturité humaine et spirituelle pour aborder sereinement leur célibat consacré et ne pas trahir leur engagement, malgré les tentations et les dysfonctionnements du monde dans lequel nous sommes appelés à exercer notre ministère pastoral. Nous savons bien que cela demeure pour nous l'objet d'une vigilance attentive. De même qu'on ne naît pas chaste, on ne devient et on ne demeure chaste qu'au prix d'une ascèse ou d'un combat qui est celui de l'acquisition et de la conservation de toute vertu. Et nous savons par expérience que l'exercice cohérent de notre pouvoir sur le corps eucharistique du Christ et la fécondité spirituelle de notre ministère au service de son corps mystique qui est l'Église sont à ce prix. Il en va de notre intimité avec le Seigneur par la prière des heures, la rencontre priante avec sa parole, le dialogue sincère avec lui dans la pratique quotidienne de l'oraison, la fréquentation régulière du sacrement de réconciliation. Dans un monde où l'explosion du numérique jusqu'à l'addiction tend à dématérialiser les relations humaines, où le corps et la sexualité ne sont plus l'expression vivante de la totalité de notre être, et où se déploient tant de pathologies de la relation, avec leur lot de déviance et de violence. L'homme a plus que jamais besoin de libération, il a plus que jamais besoin de guérison, en retrouvant une juste relation à son corps et au corps de ses semblables. En assumant notre corporéité, le Verbe incarné a rétabli l'harmonie de l'âme et du corps, profondément blessé par le péché. Par le sacrifice de la croix, à travers son corps livré et son sang versé, il a redonné au corps ses lettres de noblesse, en faisant entrer la personne, une de corps et d'âme, de manière décisive, dans la logique du don de soi pour Dieu et pour les autres, la seule réponse qui satisfasse pleinement à la question du sens de l'existence humaine. Dans la communion au corps eucharistique de Jésus qui fait l'Église, nous trouvons la guérison et nous sommes entraînés dans la dynamique de son offrande d'amour. Nous avons tous été bouleversés, et cela n'est pas sans lien avec ce que je viens de dire, par le geste héroïque du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame dans l'attentat meurtrier de Trèbes vendredi dernier. Quelques heures après sa mort, la veille de notre entrée, en Semaine Sainte, on apprenait de sa femme et du prêtre avec lequel il se préparait au mariage que cet officier supérieur de gendarmerie était un catholique, fervent et convaincu. Comment ne pas faire le lien entre le geste hors du commun de ce soldat aguerri et expérimenté et la foi profonde qui l'animait. Pour arracher l'otage aux mains du terroriste islamiste, il s'est livré lui-même aux mains de son bourreau en victime de substitution. Parfaitement unifié en lui-même, il a sacrifié sa propre vie corporelle pour sauver la vie d'un innocent. Quelle belle illustration du commandement que Jésus nous a laissé précisément dans le contexte eucharistique de la dernière scène. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quel message lumineux adressé au monde. Alors que les chrétiens s'apprêtent à célébrer le mystère pascal de sa passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Puisse son sacrifice être fécond et lui obtenir la vie éternelle. Chers frères et sœurs, en ce 27 mars, ou en communion avec les servantes de Marie, nous célébrons le 150e anniversaire de la mort du bienheureux Louis-Édouard Sestac, prêtre de Bayonne, vicaire puis chanoine de notre cathédrale, nous voulons confier tous nos prêtres à son intercession. Et nous voulons renouveler dans notre cœur notre consécration à Marie, mère du sacerdoce. Le jour de son ordination, précisément après l'onction des mains, il fit un pacte avec Marie, que nous prêtres, nous voulons faire nôtre aujourd'hui. Très sainte Vierge, je vous offre avec mes mains, mon cœur et toute ma personne. Amen.